C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 31 janvier et aujourd'hui, une émission consacrée au sommeil, à la fatigue et à la vigilance.
Nous connaissons tous ces moments de grosse fatigue, que ce soit au volant ou au travail, mais alors à quoi cela est dû? Comment y faire face? Sommes-nous tous égaux face à la fatigue et à la perte de vigilance?
Pour y répondre, nous écouterons tout à l'heure Nicolas Besseau, enseignant-chercheur à l'Université de Caen et membre du laboratoire Comet, spécialiste des questions liées au sommeil et à la vigilance.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et on commence avec un accord entre la NASA et le Pentagone, conclu la semaine dernière. Rémi, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, c'est un accord qui date en fait d'il y a plus de 50 ans. À l'époque, la NASA et le Pentagone ont pour objectif de créer une fusée nucléaire. Mais nous sommes en pleine guerre froide et le conflit, avec les coûts budgétaires de la guerre, met fin au projet. 50 ans plus tard, les deux entités renouvellent leur partenariat avec pour objectif de, je cite, « développer et tester une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique dès 2027 ».
Mais pourquoi cette fusée est-elle si spéciale?
Le but de ce projet est de viser des voyages dans l'espace lointain et de prévoir même des allers-retours sur des planètes du système solaire, notamment Mars. Et pour ça, nous avons besoin de fusées plus efficaces et plus rapides que des fusées à combustion classique. La fission nucléaire répond à ce problème. La première étape sera sûrement la Lune, puis Mars. Elon Musk, le patron de SpaceX, avait prédit en 2020 une première mission habitée vers Mars en 2026, voire 2024. La prédiction paraît ambitieuse, si ce n'est impossible. La planète rouge est encore un peu loin de nous, à peine 225 millions de kilomètres. C'est officiel depuis jeudi, l'INSERM, établissement référence de la recherche médicale, connaît le nom de son futur président.
Et oui, et l'heureux élu s'appelle Didier Samuel. Choisi par Emmanuel Macron le 13 janvier dernier, sa nomination a été confirmée, comme tu l'as dit, ce jeudi par le Parlement. Même si certains parlementaires ont voté contre, dénonçant cette nomination comme un nouveau fait du prince venu de l'Élysée, Didier Samuel succède ainsi à Gilles Bloch, président depuis 2019.
Mais alors, qui est ce Didier Samuel ?
Eh bien, Didier Samuel, il a 64 ans, c'est un hépatologue, pour faire simple, un spécialiste des maladies du foie, des voies biliaires et de la rate. Et pour ce qui est du reste du CV, on peut dire qu'il est bien rempli. Il est à la fois président de la conférence des doyens de faculté de médecine, président administrateur du comité national de coordination de la recherche, doyen de la faculté de médecine de Paris-Saclay, et encore, j'en oublie, il a aussi été chef de pôle des hôpitaux universitaires Paris-Saclay de 2007 à 2017. Si vous n'aimez pas les araignées, vous allez sûrement détester cette espèce, la pycnogonide, qui a une sacrée particularité.
Oui, vous pensez en être venu à bout de cette fichue araignée que vous avez chassée partout dans votre appartement? Faites attention, car il s'agit d'une pycnogonide, elle risque de revenir vous hanter, car elle a la particularité de se régénérer. Après une blessure ou une amputation, elle peut faire repousser ses membres, mais pas seulement ses pattes, son abdomen, ses intestins, ses muscles ou son appareil reproducteur. C'est une capacité unique puisque certes, il existe d'autres êtres vivants qui peuvent faire repousser leurs membres, les anémones de mer, les lézards ou les crabes, mais il s'agit d'ici d'une régénération complète de certains membres du corps très particulier.
Et cette araignée, elle est scrutée de près par les chercheurs en vue de recherches qui concernent les hommes.
Oui, les capacités de régénération sont particulièrement étudiées dans le secteur de la recherche et de la santé. Cette araignée pourrait nous permettre de comprendre un peu mieux les signaux moléculaires qui déclenchent la régénération. On est encore loin de faire repousser un bras ou réparer une colonne vertébrale, mais ce n'est pas inenvisageable. Notre corps peut déjà se régénérer, la peau, le système sanguin, nos intestins se reforment, se renouvellent. Le but est d'accélérer ce processus et de cibler certaines parties du corps. Le principe pas le frein à cette régénération et la vieillesse. On ne se remet pas d'une fracture à 70 ans comme à 20 ans. Et pour notre amie l'araignée, la pycnogonide, vous n'y risquez pas de la croiser, c'est une araignée de mer. On parle de faune avec cette découverte étonnante, des félins vivent actuellement sur l'Everest.
Et oui, malgré l'hostilité du lieu, des scientifiques viennent de découvrir qu'au moins deux chats de Pallas, une espèce rare, vivent actuellement sur le sommet du monde. En 2019, une expédition menée avait permis de récolter deux échantillons d'excréments, découverts à 5110 et 5190 mètres d'altitude, et ce sont les récentes analyses ADN de ces échantillons qui ont permis de révéler l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Mais Simon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette espèce ?
Eh bien, le chat Chat Palace, aussi appelé Manul, c'est un gros chat qui vit principalement dans les zones froides et montagneuses. C'est une espèce rare en voie de disparition. Elle est même placée sur la liste rouge internationale pour la conservation de la nature. La semaine dernière, on vous parlait du langage adapté pour parler aux bébés, et cette semaine, on vous parle du langage adapté aux écoliers.
Oui Simon, je pense que pour les prochaines émissions, je vais prendre une voix plus calme si jamais des écoliers nous écoutent. C'est en tout cas ce qu'indique cette étude du British Journal of Educational Psychology, effectuée sur 250 enfants. Les enfants sont très sensibles à la voix de leur professeur, cela peut les motiver ou au contraire les déconcentrer. Sans surprise, une voix froide et sèche démotive diminue la participation en classe et peut même amener à un sentiment de rébellion ou au contraire à une baisse d'estime de soi. Sur un ton plus calme et plus posé, les professeurs paraissent plus convaincants et surtout de confiance.
Mais ça équivaut aussi pour les parents.
Oui, effectivement, demander à un enfant de ranger sa chambre ou faire ses devoirs sur un ton sec et autoritaire ne fera pas forcément avancer les choses. Un ton chaleureux, affectueux, bienveillant sera toujours plus utile.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On y est tous confrontés, en particulier chaque hiver où elle s'accentue, la fatigue fait partie intégrante de nos vies et peut impacter notre humeur, notre concentration ou notre vigilance.
Pour comprendre quels sont les mécanismes de la fatigue et son impact sur notre capacité à être vigilant, nous recevons Nicolas Besseau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Caen, membre du laboratoire Comet. Vos travaux de recherche portent entre autres sur les questions liées à la vigilance. Quand on est fatigué, on est moins capable d'être vigilant. À quoi cela est dû? Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau?
Alors déjà, je vous entends parler de fatigue, donc c'est un terme assez large. Moi, j'utilise la fatigue plutôt d'un point de vue, en effet, comme vous l'avez dit, vigilance. Donc c'est plutôt lié à la somnolence, à la privation de sommeil. Mais la fatigue, c'est beaucoup plus large. Vous avez la fatigue musculaire, la fatigue psychologique. Souvent, on met dans fatigue des choses qui n'y sont pas, et surtout... On comprend mal la fatigue. Donc, la fatigue que j'étudie, moi, c'est plutôt, en effet, l'hypovigilance, et qui peut avoir des conséquences sur pas mal de domaines, mais surtout, ce qui, je pense, qui vous intéresse aussi, c'est sur les fonctions cognitives, principalement, qui va y avoir des effets. Ouais.
Parce que pour expliquer, l'hypovigilance, c'est une sorte d'entre-deux, entre la concentration maximale et le sommeil, ou c'est un peu plus compliqué?
Alors, pareil, la vigilance, tout le monde aura... Enfin, il y a beaucoup de définitions possibles. Pour moi, la vigilance, c'est le continuum vigilance-somnolence. C'est-à-dire, quand on est vigilant, on n'est pas somnolent. Quand on est somnolent, on est vigilant. L'hypovigilance, c'est plus ou moins synonyme de la somnolence. Et donc, c'est lié à la pression de sommeil et à la privation de sommeil.
Et qu'est-ce qui explique que certaines tâches intellectuelles, on peut penser par exemple à une dissertation, ça devient très compliqué quand on est fatigué?
Alors, il y a plusieurs phénomènes possibles, mais pour ce qui est de la vigilance, l'impact de la vigilance, il y a plusieurs choses. Alors, en effet, comme vous l'avez dit, il me semble, tout à l'heure, la vigilance, déjà, elle varie au cours de la journée. C'est-à-dire qu'on n'est pas vigilant de la même manière le soir, le matin. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle quand même qui est... le plus reconnu, on va dire, qui est un modèle à dos de chameau, c'est-à-dire à deux bosses, quoi, où on a un pic de vigilance vers 10 heures à peu près, en fonction évidemment de si on est plutôt du matin ou du soir, parce qu'en gros vers 10 heures, et puis un pic de vigilance l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi, vers 16 heures, voilà. Un creux aussi après le repas du midi, l'heure de la sieste, et après, évidemment, après, en fin de journée, la vigilance se baisse. Et elle va baisser d'autant plus qu'on ne va pas dormir, mais à un moment donné, il va falloir dormir. Pourquoi on est des fois moins performant? Ça va dépendre de ça déjà, ça va dépendre de l'heure à laquelle on fait par exemple une dissertation. Mmh. Et ça va dépendre aussi évidemment de comment on a dormi la veille, et l'avant-veille, et l'avant-avant-veille, parce que la privation de sommeil, c'est souvent chronique, c'est-à-dire que ça s'étale sur plusieurs jours. On peut voir ça un petit peu comme un niveau d'éveil du cerveau. Donc plus le cerveau est éveillé, plus on va être vigilant, plus on va être performant dans d'autres fonctions cognitives aussi. Plus la pression de sommeil est importante, plus le cerveau s'éteint entre guillemets, et plus ça va être compliqué.
Mais pourquoi le cerveau, il a besoin d'être reposé un maximum pour fonctionner au maximum de ses capacités? Qu'est-ce que le sommeil finalement apporte au cerveau?
Alors plein de choses. Alors déjà, quand on dort, le cerveau se nettoie. Il va un petit peu nettoyer, virer tous les éléments, parce que le cerveau, c'est un tas de cellules, hein, comme tous les organes. Donc ces cellules vont produire des déchets, entre guillemets, qu'il faut nettoyer. Ça se fait beaucoup pendant la nuit. Il y a aussi évidemment la fonction du sommeil, du rêve aussi, qui va permettre de réorganiser un petit peu les émotions qu'on a eues pendant la journée. Et le sommeil d'une manière générale aussi, qui va permettre de réorganiser les choses que l'on a faites pendant la journée, notamment la mémoire. Il y a un gros effet du sommeil sur la mémoire. Donc on apprend pendant le sommeil, donc en fait le cerveau, les cellules, les connexions se réorganisent aussi pendant le sommeil, et le sommeil est nécessaire pour ça aussi. J'en reviens un petit peu justement, on peut revenir justement au problème de tous les étudiants quand les examens arrivent, c'est la pression entre travailler beaucoup pour apprendre, pour réviser l'examen et puis dormir quand même. Il faut travailler tout le long de l'année et pas qu'à la fin, mais bon, ça c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, et c'est vrai que chacun se connaît, mais si vous ne faites que travailler sans dormir, ça va poser un problème à un moment donné, problème de mémorisation, puis problème évidemment de capacité à faire les examens, puis même à réviser, mais il faut dormir un minimum. Oui.
Et justement, pour les étudiants qui nous écoutent et qui peuvent être en période d'examen, on le sait parfois aussi, le sommeil c'est parfois un problème, il y a des personnes qui ont du mal à dormir, à trouver un sommeil tout simplement. Est-ce qu'il y a des techniques en fait pour bien s'endormir, pour avoir un sommeil réparateur?
Des techniques, il y en a. Alors en général, les jeunes n'ont pas trop de problèmes pour s'endormir. Ça, il y a aussi des insomniaques chez les jeunes évidemment, mais donc ça se complexifie plutôt avec l'âge. Alors des techniques, il y en a plein, mais je pense que il y a des techniques qui vont être valables pour certains, pas pour d'autres. Donc chacun doit un peu trouver son chemin. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument pas compter sur les médicaments. Tout ce qui est somnifère, c'est normalement réservé pour des durées courtes. Donc éventuellement, une période d'examen, éventuellement, si vraiment...
Parce qu'à long terme, ça finit par plus être efficace ?
C'est plus efficace, il faut augmenter les doses. Et surtout, ça procure à long terme des gros problèmes, notamment des troubles cognitifs. C'est fait pour 2-3 semaines d'utilisation, quoi.
Et peut-être de la dépendance.
Ça crée de la dépendance, évidemment. Après, on ne peut plus dormir sans. Mais le problème, c'est qu'en France, notamment, il y a des gens qui prennent ça à vie, hein, tout le temps. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça, il faut éviter autant que possible d'utiliser ces médicaments. Je pense que si on peut s'en passer, il faut absolument s'en passer. Il faut trouver d'autres solutions. Et évidemment, il faut se préparer au sommeil. Alors, quand on fait les examens, on en a plein la tête, on est stressé, etc. Mais ça, c'est transitoire. Des fois, on a l'impression de ne pas dormir et on dort quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à s'endormir et puis on s'est réveillé quelques fois dans la nuit. On a l'impression qu'on n'a pas dormi, mais on a dormi quand même. On a mal dormi, mais on a dormi. Donc, il faut aussi relativiser par rapport à ça.
Pour revenir sur la question de la vigilance, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes qu'on pourrait prendre? Alors bon, évidemment, on parlait du sommeil, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres bonnes habitudes qu'on peut prendre au quotidien pour renforcer notre capacité à être plus vigilant?
C'est comme pour beaucoup de choses, il y a un effet d'entraînement, évidemment. Et si on a à faire des tâches de vigilance souvent, on va devenir plus performant. Mais comme la vigilance, je l'ai dit, c'est lié directement à la somnolence, le sommeil joue un rôle hyper important sur la vigilance. Donc d'abord, il faut bien dormir. Donc il faut se décentraliser des écrans, surtout si on a des problèmes de sommeil, une heure avant de dormir environ. Donc bon, il y a des gens comme moi, comme beaucoup, qui regardent leur écran jusqu'à 5 minutes avant de dormir et puis qui s'endorment 5 minutes après. Hein. Encore une fois, tout le monde n'est pas pareil.
Il y a des différences physiologiques aussi. Hein,
oui, voilà. Mais bon, voilà, si on a des problèmes, il faut faire attention aux écrans, à la lumière bleue de manière générale, donc les écrans, et surtout les écrans proches, donc les smartphones, les tablettes, des choses comme ça. Puis tout ce qui nous éloigne du sommeil, c'est-à-dire les jeux vidéo, la télé aussi, un peu moins, parce qu'à la télé, on est passif, donc on peut s'endormir, il y a beaucoup de gens qui s'endorment devant la télé. Donc il faut se préparer au sommeil, un petit peu, donc la lecture c'est un bon moyen par exemple, et donc dormir suffisamment, alors là c'est pareil, c'est très variable, hein. Si vous avez besoin de 5 heures de sommeil, tant mieux pour vous, parce que comme ça il vous reste 19 heures pour faire plein de choses. Si vous avez besoin de 8 heures comme à peu près tout le monde, il faut dormir vos 8 heures, et ça c'est déjà, ça va maximiser votre vigilance. L'autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le creux postprandial, le creux au niveau du moment de la sieste, donc qui touche un peu tout le monde, certaines personnes plus que d'autres. Et donc, il y a des gens qui ont besoin, enfin, qui ressentent le besoin de faire une sieste. Donc, si vous en avez besoin, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand on est étudiant, qu'on a une heure de pause, le midi. Mais une petite sieste, ça peut aussi booster la vigilance de début d'après-midi et éviter ce creux de vigilance. Donc, si, par exemple, on va en cours à 13h30, si on peut faire une petite sieste. Alors une petite sieste, c'est 20 minutes. À l'heure actuelle, on ne préconise pas de faire des grandes siestes. Si la sieste est trop longue, c'est plus une sieste, c'est un sommeil de courte durée. Il ne faut pas rentrer dans du sommeil trop profond, donc il faut que ce soit 15-20 minutes. Et normalement, après une sieste comme ça de 15-20 minutes, eh bien, on va se réveiller, éveillé justement. Il n'y aura pas le problème de l'inertie du sommeil, comme on a le matin, on a mis du temps à se réveiller. Bah, alors, il y a certaines personnes pareilles hein, qui sont faites pour la sieste, d'ailleurs, qui arrivent à faire la sieste, qui aiment ça. Bon, ça s'entraîne aussi la sieste, mais... et qui ont besoin de ça, puis d'autres qui n'en ont pas besoin aussi. Hein.
On comprend donc qu'il faut avoir vraiment une régularité dans le sommeil. C'est ce fameux mot, la chronobiologie, c'est ça qui est important?
Alors oui, ça c'est important, oui. C'est le rythme veille-sommeil. Ouais. Enfin, le rythme biologique de manière générale, le rythme veille-sommeil en particulier. C'est important d'avoir un rythme relativement régulier. Après, quand j'ai dit ça, je sais très bien que personne n'a des rythmes réguliers. Quand on est jeune, même quand on est vieux, on n'a pas forcément toujours la possibilité de se coucher à la même heure, se relever à la même heure. Il y a des problèmes déjà sociaux, c'est-à-dire que de temps en temps, on doit partir en déplacement, on va prendre le train, on va en voyage, etc. Donc on va se lever plus tôt. Et puis évidemment, le soir, des fois, on va se coucher plus tard pour différentes raisons. Mais oui, c'est préconisé d'avoir un rythme quand même le plus régulier possible. C'est ce qu'il y a de mieux pour la santé, ce qu'il y a de mieux pour notre horloge biologique, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour avoir une quantité de sommeil suffisante et pas trop de privation de sommeil. Quoi.
On parle depuis tout à l'heure de manque de sommeil, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts extérieurs qui peuvent impacter notre vigilance et nous rendre moins vigilants?
Oui. Alors, oui et non. Si on définit la vigilance comme je l'ai définie, non. Maintenant, on confond parfois aussi vigilance et attention. Pour plein de tâches, on a besoin d'attention. Par exemple, pour conduire, on a besoin d'être vigilant, mais on a besoin aussi d'être attentif. On peut dissocier les deux. L'attention, c'est plutôt une capacité à se focaliser sur une tâche. Si on est hypovigilant, on va manquer d'attention. Mais on peut manquer d'attention pour plein d'autres raisons. Manquer d'attention parce qu'on pense à notre copine qui nous a envoyé un mauvais message, je ne sais quoi. Il y a plein de choses qui peuvent faire que notre cerveau va vagabonde autre part et du coup on manque d'attention sans être forcément en manque de sommeil.
Avec le sommeil, on pense aussi au sport. Quel est le lien entre faire du sport et avoir un bon sommeil? On parle souvent de ça. Est-ce qu'il y a vraiment un lien?
Alors, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ressentent le besoin de bouger, de faire du sport pour bien dormir. Il y a des bons dormeurs qui dorment, quelles que soient les choses, quelles que soient ce qu'ils ont fait pendant la journée, et puis il y a des gens, en effet, qui ont besoin de ça. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'activité physique régulière, elle va amplifier l'horloge biologique, elle va amplifier les rythmes, elle va les entraîner, ce qu'on appelle un donneur de temps, comme la lumière. Et la lumière, c'est aussi un donneur de temps, ça entraîne l'horloge. Parce que notre horloge biologique qui est dans notre cerveau, elle est réglée à peu près sur 24 heures, mais à peu près. Ce qui fait que quand on est dans une grotte en pleine et qu'on n'a aucune information sur l'heure, on va se décaler. C'est pas vraiment 24 heures, c'est à peu près 24 heures. Et cette plasticité de notre horloge, c'est important parce que quand on fait un jet lag, quand on part en voyage en Russie, c'est pas une bonne idée, mais en ce moment en tout cas, on va pouvoir se recadrer parce que notre horloge est plastique. L'activité physique, c'est un donneur de temps comme les autres, on l'a montré, il y en a d'autres, hein, il y a l'activité sociale, etc. Donc toutes ces activités-là vont en effet amplifier et aider notre horloge. Donc dans ce cadre-là, oui, l'activité physique va aussi un rôle à jouer sur le sommeil. Il y a la question de l'heure, l'activité physique. Donc il est préconisé de nos jours de ne pas faire d'activité physique avant de dormir, une heure ou deux avant de dormir. Encore une fois, il y a des gens qui font l'activité une heure et ils s'endorment très bien. Mais si vous avez des problèmes, évitez. C'est vraiment à chacun aussi de se connaître, de savoir ce qui est bon pour lui ou pas.
Oui, ça va dépendre de chacun. En fait, il n'y a pas de remède sur savoir comment se régler entre faire assez de sport pour être bien fatigué et bien dormir et trop de sport pour être trop excité et ne pas réussir à dormir.
Oui, c'est ça. C'est vraiment sujet dépendant. Il faut que les gens, après, à partir d'un certain âge, on commence à se connaître, on sait ce qui est bon pour nous. Sinon, il faut tester, mais oui, en tout cas, l'activité physique, et il y a d'autres avantages, évidemment, l'activité physique pour la santé, donc il ne faut pas hésiter à en faire. Et éventuellement, faire juste attention à ne pas en faire trop tard le soir si c'est excitant. Après, ça dépend aussi probablement du type d'activité physique.
Vous avez aussi parlé de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui ne vit que la nuit et dort le jour, à long terme, va y avoir des impacts sur sa fatigue, sur la vigilance?
C'est peut-être pas le pire, je dirais, de tout le temps vivre la nuit et tout le temps dormir la nuit, la journée. Le pire du pire, et c'est pourtant pas assez, assez commun, c'est les gens qui travaillent de nuit, comme les infirmières par exemple, qui travaillent de nuit quelques jours par semaine et qui le reste du temps se recalent sur leur vie de famille, parce que souvent elles ont une famille et vie sociale, donc elles sont obligées de se recaler et de redormir la nuit et de revivre la journée. Les infirmiers et les infirmières notamment, les travailleurs postés de manière générale, sont sans arrêt en train de se décaler. Et ça, c'est une catastrophe pour la santé. D'ailleurs, c'est démontré, hein, c'est des personnes qui ont plus de problèmes de surpoids, parce que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui est sécrétée pendant la nuit, il ne faut pas de lumière, a un rôle sur le métabolisme. Surpoids, obésité, diabète et aussi cancer. Il y a vraiment des conséquences sur la santé. Donc ça, c'est vraiment des gens extrêmes qui ont vraiment des rythmes complètement anarchiques. Si on pouvait éviter, ce serait bien, mais je pense qu'on pourrait en tout cas légiférer un peu pour que, par exemple, qu'ils fassent pas ça toute leur vie au moins, que ça soit réservé peut-être aux jeunes.
Oui, aussi réadapter la façon de travailler pour que on n'est pas ces décalages que vous venez de décrire.
Oui, mais bon, on a besoin d'infirmiers et d'infirmières la nuit, notamment. Donc il y a des choses qui sont inévitables. Enfin, tant qu'on n'a pas des robots avec une intelligence artificielle qui remplaceront tout ça, pour l'instant, c'est inévitable.
On continue de parler fatigue et vigilance avec vous, Nicolas Besseau. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Écoutez Ailleurs de L'Abattu. A tout de suite dans C'est pas faux.
Now rest assured that you have to read a book. Then you'll learn how to cook. And I'll be let off the hook. Now rest assured that from now on you will cook. That was all that it took to balance the chores. I am shook. What we endured is behind us, you see. We'll be right back.
C'était Ailleurs de la Battue sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux. Aujourd'hui, nous parlons du fonctionnement de la fatigue et de son impact sur notre vigilance avec Nicolas Besseau, enseignant-chercheur à l'Université de Caen au laboratoire Comet.
J'aimerais qu'on parle un peu encore de vigilance. Est-ce qu'il y a différents stades ? Est-ce qu'il y a différents paliers de vigilance ?
Une bonne question. On a montré, en effet... ce qui n'est pas facile d'objectiver la vigilance. On peut demander aux gens une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez vigilant, mais déjà en faisant ça, on les réveille. On mesure la vigilance de manière indirecte, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à des tests d'attention souvent, des tests de temps de réaction par exemple, des choses comme ça. Donc là, on peut avoir un niveau de vigilance, mais... Le seul moyen, à ma connaissance, pour mesurer la vigilance en continu et de manière objective, c'est d'utiliser l'EEG, l'électroencéphalogramme. Donc on va mesurer l'activité du cerveau et on va en sortir des scores de vigilance. On a maintenant des échelles pour mesurer les scores de vigilance. Avec les limites qu'il y a derrière aussi, hein, ce ne sont que des signaux. De ces signaux, on en déduit des états de vigilance, mais avec une certaine incertitude quand même. Et là, bon, par exemple, il y a différents niveaux possibles. Notre échelle qu'on utilise, nous, elle va de 0, enfin, il y a 5 niveaux. Et ce qu'on a pu observer, par exemple, sur la conduite, c'est qu'en effet, à partir d'un certain niveau, niveau 2 pour nous, ben, ça devient dangereux. Donc, en effet, il y a des stades. On peut en déterminer des sous-stades. Et puis, en effet, il y a des paliers, enfin, des cut-off, quoi, des moments où la vigilance devient dangereuse pendant certaines tâches.
Est-ce qu'on peut rentrer plus en détail dans ces stades ? C'est-à-dire quoi, le niveau 2, on a déjà une petite perte de vigilance, et puis niveau 5, en fait, on s'endort complètement sur le volant ?
Alors, ça va être 0 à 4. Niveau 4, on est toujours éveillé, on ne dort pas encore, mais on n'est pas loin. C'est vraiment niveau 4, c'est vraiment c'est des stades qu'on a du mal à obtenir d'ailleurs, parce que c'est vraiment les stades où la personne n'est pas loin de s'endormir. Mais bon, c'est classique, hein, en conduite, ça arrive. Et là, ça c'est souvent, hein, des gens qui s'endorment carrément.
Pourquoi est-ce que même quand on a bien dormi, on peut finalement être très, très fatigué au volant parce qu'on a pu rouler 3-4 heures?
Oui, là c'est la lassitude de la tâche. Si vous vous mettez dans un lit, vous fermez la lumière, vous allongez... à 16h l'après-midi, c'est pas l'heure normalement, voilà, il y en a beaucoup qui vont s'endormir, donc c'est ce qui se passe quand on fait une tâche comme ça monotone au volant, si on est dans un confort thermique, bien allongé, enfin bien assis et tout ça, oui, on peut potentiellement perdre un petit peu, enfin tomber dans la somnolence, parce qu'on est fait ainsi, et que quand on est bien au calme, bien confortable, on va pouvoir somnoler.
Et pourquoi on a besoin de cette pause de 15 minutes ? Ça paraît bizarre quand même, après 2 heures de route, de devoir s'arrêter 15 minutes et puis on se dit on peut reprendre tout de suite. Pourquoi on a besoin de cette pause de 15 minutes ?
15 minutes, ça, encore une fois, c'est une préconisation, mais la pause, évidemment, vous allez changer d'heure, vous allez vous lever, vous allez peut-être boire un coup, aller aux toilettes, etc. Donc vous allez vous réactiver, vous allez réactiver votre cerveau. Vous pouvez le réactiver d'autres moyens, hein. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous pouvez vous frotter les yeux, enfin, il y a 36 moyens de réactiver. C'est vrai que la vraie pause, c'est ça réactive bien parce que vous changez complètement d'environnement, vous allez... bouger, donc ça va forcément vous activer. Mais maintenant, si vous êtes vraiment somnolent, ça va vous réactiver quelques minutes, puis vous allez vous rendormir au volant 5 minutes après. Hein.
Est-ce qu'il y a des solutions comme ça pour se redonner des coups de boost sur le moment quand on sent qu'on est trop fatigué et qu'on ne peut pas se permettre de dormir une heure parce qu'on est pressé ou je ne sais quoi ?
Il y a des produits, oui. Il y a des produits, il y en a qui sont autorisés, comme la caféine, qui évidemment vont... Alors, c'est pareil, ça fonctionne plus chez certaines personnes que sur d'autres. Ça fonctionne d'ailleurs très bien chez les personnes qui n'en prennent pas souvent. Ça fonctionne moins bien chez les personnes qui en prennent souvent, évidemment, comme toutes les drogues. C'est quand même un produit actif. Donc il y a ça, il y a ces produits-là. Il y a l'activité physique, oui, qui va réactiver. Donc, ça reste provisoire. Il y a la sieste. C'est une solution, hein, quand on est sur la route et qu'on n'y arrive plus. La simple pause, c'est peut-être pas forcément suffisant. Une petite sieste encore de 15-20 minutes, ça va certainement vous donner un peu plus de boost que simplement vous relever et puis aller aux toilettes, quoi. Voilà, il y a des solutions. Moi, je dirais sieste, caféine, activité physique, ça me paraît les trois solutions les plus classiques, on va dire.
Donc, on n'est pas tous égaux devant la vigilance. Est-ce que l'âge a un impact ? Comment est-ce que l'âge a un impact sur la vigilance qu'on a ?
Il y a un impact qui est bien connu par notre laboratoire, qu'on a pas mal étudié. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'horloge biologique. On peut amplifier l'horloge, mais elle a tendance à s'aplanir avec l'âge et la sédentarité. Souvent, l'âge et la sédentarité, ça va un peu en même temps, en même sens. Donc, une personne âgée, je dirais caricaturale, c'est une personne qui, pendant la journée, après manger, elle va piquer du nez, voire même s'endormir à table. Après, elle va aller se mettre dans son canapé pour regarder la télé, elle va s'endormir devant la télé. Et puis la nuit et le lendemain matin, elle va vous dire oh, j'arrive pas à dormir, voilà, j'ai des problèmes de sommeil. Donc elle dort par petites touches pendant la journée et puis la nuit elle dort mal. Donc on voit bien un aplatissement du rythme veille-sommeil. Donc ça c'est assez classique, je dirais, sur une personne âgée. Alors ça vient notamment du fait que le sommeil, souvent comme beaucoup d'autres fonctions physiologiques, est altéré avec l'âge. Donc le sommeil étant altéré la nuit, la journée, on récupère, entre guillemets. En tout cas, on est somnolent. Comme on est somnolent, on a moins d'énergie pour faire de l'activité physique, par exemple, aussi, même pour aller dehors au soleil, parce que c'est aussi un donneur de temps. Donc on est moins activé par les donneurs de temps. Et puis, voilà, c'est un cercle un petit peu vicieux. Donc c'est ça, c'est l'effet de l'âge sur la vigilance, c'est beaucoup ça.
Mais ce fait de s'endormir par petites tranches comme ça dans la journée, c'est vraiment lié au caractère physiologique de l'âge ou c'est aussi parce que, quand on est à la retraite, on n'a plus le même rythme, on ne se lève plus forcément aux mêmes heures, on n'a pas à être actif toute la journée, ça peut jouer aussi ou c'est vraiment là juste l'âge ?
Ah bah le rythme de vie peut jouer évidemment. Une chose qui pourrait jouer, c'est la sédentarisation. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, à la retraite, ne font plus rien, ou pas grand-chose. Ça, c'est un problème, évidemment. C'est le moment où il ne faut surtout pas s'arrêter. Il faut prendre des activités, jardiner. Enfin, faut faire de l'activité physique pour s'entretenir. Parce que c'est le bon moment de continuer à le faire parce qu'on est encore en train de vieillir. Et il y a ça. Et puis, il y a aussi, oui, la fonction du sommeil qui peut être altérée par le vieillissement. Mais c'est comme la perte de masse musculaire avec le vieillissement. On n'y peut rien, on vieillit. Mais on peut, enfin, on n'y peut pas rien. On peut quand même lutter contre. On ne va pas devenir marathonien si on n'était pas avant. Enfin, si, encore à la limite, peut-être. Mais on ne va pas devenir super bon si on n'était pas bon avant. Mais on peut limiter les choses, voire même les améliorer. Hein. Donc il faut veiller à rester actif ou à l'être si on n'était pas, d'ailleurs. Voilà, faire attention, pas faire trop de siestes pendant la journée. On a le droit à la petite sieste de l'après-midi, mais c'est tout, courte. Et pour garder justement de la somnolence pour la nuit, voilà, il y a des petits principes comme ça à garder. On ne peut pas non plus lutter contre le vieillissement, mais on peut limiter les effets.
Ça permet un peu de faire un peu de vigilance, notamment pour la sécurité routière. C'est quoi les signes qui doivent alerter sur une potentielle perte de vigilance ?
Bon, le signe assez simple, c'est les paupières. Hein. C'est d'ailleurs un outil de détection de l'hypovigilance assez efficace. Donc quand on commence à cligner des yeux lentement, quand on commence à avoir un regard fixe, ou que les paupières deviennent lourdes, voilà, ça c'est classique. Voilà. C'est le signe le plus visible de l'hypovigilance. Après, il y a d'autres signes, mais qui ne sont pas forcément liés à la vigilance. Et c'est plus ce qu'on appelle le vagabondage de la pensée. Ça arrive, je pense, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on roule pendant 2 heures sur l'autoroute, puis à un moment donné, on se dit, mais où on est ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures ? J'étais en train de rêver à je sais pas quoi. Et donc là, c'est pas de l'hypovigilance, vraiment. Donc c'est vraiment au niveau des voilà, les paupières, je pense que c'est un bon signe. Et puis, quelqu'un qui est hypovigilant au volant, il se redresse.
Et des douleurs physiques aussi, un petit peu, c'est ça ?
Et surtout, il va gigoter, il va se frotter les yeux, il va se frotter le crâne, enfin, le nez, tout ça. Il va essayer de se réactiver de manière inconsciente. C'est des signes que l'hypovigilance... Alors, c'est vrai que c'est aussi des moyens de se réactiver, mais bon, c'est quand même des signes qu'on est hypovigilant, qu'il faudrait songer à s'arrêter.
Faire une petite sieste.
Merci beaucoup Nicolas Besseau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Caen, spécialiste des questions de fatigue et de vigilance. Bonne journée à vous.
Merci.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et pour ce premier événement, direction le MOO pour un débat sur les différentes formes d'engagement des étudiants. Emploi, écologie, engagement, la place des jeunes est fondamentale pour la société de demain et vous pourrez assister et participer à ce débat au MOO jeudi 2 février à 18h30. La discussion sera animée par la chroniqueuse biodiversité et climat Stacy Algrin et la directrice artistique du collectif Minuit 12, Pauline Robert. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site du MOO dans la rubrique programme. Après le MOO, traversons l'Orne pour nous rendre au Dôme. Ce samedi 4 février, découvrez le travail des chercheurs et des chercheuses de l'association Normandie Doc. De 14h à 18h, vous pourrez rencontrer des doctorants et discuter avec eux sur leurs travaux de recherche, leur domaine, leur façon de travailler. Vous pouvez retrouver le programme sur le site ledôme.info et vous inscrire gratuitement. C'est ce samedi 4 février de 14h à 18h.
Et on termine cet agenda avec, comme souvent, une recommandation docu. Et cette semaine, on se donne rendez-vous ce samedi sur Arte pour la diffusion d'une grande soirée consacrée à l'histoire de la Perse, au travers de sa culture, de ses œuvres artistiques et architecturales les plus emblématiques, de la Perse à l'Iran, 3000 ans de civilisation, une série de 3 documentaires de 52 minutes réalisés par la journaliste Samira Ahmed, à découvrir ce samedi sur Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.